Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Aux États-Unis, alors que la campagne électorale est passée à l'arrière-plan au beau milieu de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, les mouvements politiques connaissent une accélération qui n'aurait sans doute pas eu lieu dans d'autres circonstances. Côté démocrate, Joe Biden est désormais assuré d'être le prochain candidat face à Donald Trump en novembre prochain, après avoir reçu le soutien de son principal rival à l'investiture, Bernie Sanders, un ralliement rapide qui intervient quelques jours seulement après le retrait de la campagne du sénateur du Vermont, trop distancé à ce stade de la course pour pouvoir rattraper son retard face à l'ancien vice-président de Barack Obama, le prédécesseur de Donald Trump qui a lui aussi annoncé son soutien à Joe Biden, lequel se trouve désormais dans une position plutôt confortable avant même son investiture à la Convention démocrate, dont la date a été reportée de juillet à août en raison de l'épidémie. Confortable mais pas à 100%. Les électeurs de Bernie Sanders risquent en effet de ne pas tous se retrouver dans la candidature de Joe Biden, qui aura du mal à rassembler sur son nom, en particulier les jeunes progressistes, très attachés aux positions assez radicales de Sanders. Regard sur les défis qui attendent Joe Biden, qui va devoir unir le Parti démocrate. Une tâche à la hauteur des enjeux, comme nous allons le voir avec nos invités que nous retrouvons régulièrement depuis le début de cette campagne Maison-Blanche 2020. Philippe Golub, professeur des relations internationales à l'Université américaine de Paris, auteur de plusieurs ouvrages, dont Une autre histoire de la puissance américaine aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Mélandry, historien, auteur également de plusieurs ouvrages, dont Le siècle américain, une histoire chez Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de questions après ces revirements dans la campagne. Le retrait de Sanders constitue-t-il une surprise, tant il intervient tôt dans la campagne? Son soutien à Joe Biden également? L'aurait-il fait sans le coronavirus? Le renoncement de Sanders doit en tout cas avoir un goût amer pour l'indépendant du Vermont, réélu pour un nouveau mandat de 6 ans au Sénat en 2018 et qui menait ce qui était sans doute sa dernière campagne. Il était aussi plutôt isolé, Philippe Golub.
Alors évidemment, c'est un désappointement important pour Sanders et pour tous ceux qui sont mobilisés derrière lui. Il faut souligner le fait que dans l'ensemble, Sanders a perdu la bataille politique, mais il semble avoir, au sein du Parti démocrate du moins, gagné une partie de la bataille idéologique, dans le sens qu'il a fait bouger les lignes politiques et intellectuelles à l'intérieur du parti en direction d'un progressisme américain nouveau, plus orienté vers le social et d'ailleurs vers une certaine forme de socialisme démocratique. Donc dans ce sens-là, c'est très amer pour lui personnellement, mais en même temps, il a changé, je pense, pour longtemps la donne au sein du Parti démocrate et au sein surtout de l'électorat démocrate jeune qui, à l'avenir, va largement influencer sur le cours des choses.
Alors Pierre Mélandry, vous partagez cela et qu'est-ce qui nous permet d'affirmer, comme vient de le faire Philippe Golub, qu'effectivement Sanders a fait bouger les lignes vers plus de progressisme, Pierre Mélandry?
Oh oui, sans aucun doute. La meilleure preuve, c'est que déjà, semble-t-il, des négociations se sont engagées entre les équipes des deux grands candidats et que Biden a commencé à faire des concessions, même si sans doute elles sont encore loin de suffire aux associations de jeunes électeurs qui réclament des positionnements beaucoup plus radicaux de la part du futur candidat démocrate, en particulier sans doute sur la question climatique. C'est là où il est peut-être encore actuellement le plus en retrait par rapport au progressisme des supporters de Sanders. Mais sur la santé, Biden, me semble-t-il, a accepté le principe d'un abaissement de l'âge du Medicare de 65 à 60 ans. Il a fait beaucoup de concessions sur la gratuité de l'enseignement supérieur dans les établissements publics. Et il a fait également des concessions sur la remise de la dette étudiante. Mmh. Bref, comme le disait Philippe, tout ceci est dû à l'influence de Sanders. Au fond, Sanders aura été un de ces hommes politiques qui, sans jamais arriver à exercer le pouvoir suprême, auront parfois plus influé sur la politique américaine que ceux qui se sont retrouvés à la Maison-Blanche. Et je crois qu'il en était conscient. Il est certainement personnellement un petit peu amer, mais je trouve qu'il ne l'a pas laissé transparaître dans son retrait et qu'au fond, qu'il a réaffirmé avec force que, au fond, l'avenir du Parti démocrate, eh bien, c'était lui et ceux qui le soutenaient qui probablement le détermineraient. Et ce, probablement d'autant plus que la crise assez terrible dans laquelle les États-Unis sont plongés a de grandes chances de favoriser un glissement toujours plus fort vers un rôle de l'État depuis les années 80 assez anémié aux États-Unis.
Alors la question que j'évoquais en introduction, c'est ce que vont faire les supporters de Sanders. Est-ce qu'ils vont faire comme Sanders et appuyer et voter pour Joe Biden? La question est un peu en suspens. Qu'est-ce que l'on peut dire, Philippe Golub, des défis pour Biden et les défis pour le Parti démocrate dans cette campagne 2020?
Biden, me semble-t-il, pour l'instant, n'a pas suffisamment bougé en direction, même s'il a fait quelques gestes symboliques, effectivement, et a promis des changements dans son programme de santé, il n'a pas bougé assez, personnellement, en tant que candidat, dans les grandes lignes, vers le progressisme de Sanders, pour pouvoir, pour l'instant du moins, convaincre une partie non négligeable de la base jeune de Sanders, qui est très politisée, qui est très consciente et ulcérée de la situation économique et sociale aux États-Unis, de les convaincre de le soutenir ardemment. C'est-à-dire, le danger existe pour Biden et pour le Parti démocrate qu'une partie de ses électeurs ne vote pas, ne passe pas aux urnes en novembre 2020. La question qui se pose est de savoir si la toxicité de Trump, aujourd'hui arrivée à son comble, autour de la gestion, ou plutôt de la malgestion de la crise du Covid-19, si la toxicité de Trump suffira quand même à les orienter vers Biden, même si son centrisme déplaît encore.
Alors, bien évidemment, nous en parlerons un tout petit peu plus tard dans l'émission. Je poursuis sur la campagne côté démocrate, Pierre Mélandry. On a vu Barack Obama attendre qu'il n'y ait plus qu'un candidat démocrate pour sortir du bois et lui apporter son soutien, donc à Joe Biden. Quel rôle va-t-il jouer dans la campagne? Il a maintenu un profil bas durant les primaires, mais il n'était pas pour autant inactif. Que sait-on de ce qu'il faisait en sous-main et en quoi le soutien de Barack Obama est-il important pour Joe Biden?
Écoutez, il a cherché, je crois, toujours à rester extraordinairement impartial dans les primaires. On lui avait demandé éventuellement de prendre position de façon à casser la candidature Sanders, qui à un moment paraissait, il faut se le rappeler, au début de l'année en pointe, et cela inquiétait terriblement l'establishment du parti, qui voyait déjà ses chances de regagner le Sénat perdues, et même celles de perdre la Chambre accrues. Or, maintenant, je crois que Obama va se sentir extraordinairement à l'aise pour jouer le rôle qu'il peut jouer, c'est celui de grand rassembleur du parti. Moi, je me rappelle quelque chose, c'est la façon dont Bill Clinton lui-même avait, je ne dis pas sauvé la mise, l'expression est trop forte, mais apporté un renfort tout à fait extraordinaire dans la convention démocrate de 2012 à Obama, en quelque sorte en ralliant les sceptiques parmi les démocrates face au bilan du premier mandat du président à sa réélection. Et je pense que là, Obama, qui reste extraordinairement aimé dans le parti, va, je pense, être un atout très fort pour Biden. Mais comme le disait Philippe, il faudra qu'il soit très habile parce qu'au fond, rappelons-nous la formule d'Alexandra Ocasio-Cortez qui avait dit dans un autre pays, Joe Biden et moi ne nous retrouverions pas dans le même parti. Et les sondages qui disaient que seulement 53% des électeurs de Sanders étaient prêts à voter pour n'importe quel candidat démocrate. C'est pourquoi je crois, et là je suis tout à fait d'accord avec Philippe, qu'il faudra que Biden, à la suite de négociations, parvienne à des positions plus progressistes. Et le problème pour lui va être sur ce plan de ne pas perdre en même temps sur son centre droit ce qu'il gagnerait sur sa gauche. Et je pense à une question effectivement comme le fracking contre lequel beaucoup le mettent en garde de se prononcer de façon négative. Mais ceci dit, des sondages indiquent quand même qu'il y aurait une assez nette majorité aux États-Unis pour des dépenses très élevées en faveur de la transition climatique. Et c'est peut-être là un des domaines où Biden pour étendre la main aux supporters de Sanders.
En tout cas, Sanders a lui-même présenté la défaite du président Trump comme un impératif justifiant son ralliement à Joe Biden. Donc l'objectif est vraiment clair. Philippe Golub, quelques mots sur Michelle Obama. Elle est aussi très populaire. Est-ce qu'on va la voir pendant la campagne? Et cette campagne, finalement, à quoi va-t-elle ressembler l'organisation de grands meetings dans le contexte actuel sanitaire paraît compliqué.
D'abord, je voudrais souligner le fait que je ne suis pas tout à fait sûr que la présence des deux Obama, d'ailleurs, dans la campagne changera fondamentalement la donne. Ceux qui ont soutenu Obama continueront de voir dans sa présence quelque chose de très positif. Michel aussi. Au fond, l'électorat démocrate ne va pas être beaucoup plus large au cours des élections avec sa présence ou pas. Obama, il ne faut pas l'oublier, est pour les républicains, pour les électeurs conservateurs, une figure très polarisante. Donc, dans ce sens-là, je ne pense pas que leur présence dans la campagne change au fond les choses ou fasse bouger les lignes de force fondamentales. Je crois que le plus intéressant est la question justement de ce que soulevait Pierre, c'est-à-dire le retour de l'État. Je pense qu'il y a un moment d'opportunité historique qui se présente pour le Parti démocrate de revenir aux idées, aux programmes et aux genres d'intervention étatique qui avaient été celles de Franklin Roosevelt dans les années 30 et dans les années 40 pendant la guerre. C'est-à-dire que c'est un moment d'opportunité historique où les Américains, la population américaine, s'attend, demande, exige une intervention étatique forte pour les protéger, pour les soulager, pour créer les conditions de vie qui sont nécessaires à la survie dans des conditions difficiles. Et donc, il y a une possibilité réelle de transformation que Biden devra mobiliser s'il veut gouverner en temps de crise, parce que la crise sanitaire et économique, en fait, ne fait que commencer. La crise économique sera longue et extrêmement difficile. Comment est-ce que la campagne se déroulera? Eh bien, elle se déroulera par les réseaux sociaux, elle se déroulera par des déclarations télévisuelles, elle se déclarera dans ce genre de format si les grands meetings sont impossibles, et il semblerait que pour l'instant, ils vont être impossibles pendant des mois. Donc, ce sera une campagne qui se déroulera autrement sur le plan de la communication, et les mobilisations par les réseaux sociaux joueront un rôle important.
Alors, pour aller plus loin, l'élection de novembre, la question qui se pose, c'est effectivement aussi son déroulement. Un débat a surgi aux États-Unis sur la possibilité de voter par mail. Les Républicains vont tout faire pour éviter ce mode de vote, car ils n'ont pas intérêt à ce que le plus grand nombre d'électeurs puissent voter, Pierre Mélandry.
Ah oui, tout à fait. Trump lui-même l'a dit, que le vote par correspondance réussissait mal aux Républicains. Et il a même suggéré que si on allait dans cette voie-là, et si on étendait l'accès au vote, eh bien, il n'y aurait plus un seul Républicain élu. Donc, la mise en garde est très forte. Et le débat actuel se situe autour d'un nouveau plan d'aide aux petites et moyennes entreprises. Les démocrates mettent comme condition à leur aval à ce programme, non seulement son extension à d'autres domaines, mais aussi l'intégration de clauses favorisant le vote par correspondance, favorisant les inscriptions online et par correspondance, étendant le nombre de jours où les électeurs pourront voter. Vous avez raison, on va avoir une très grande bataille sur les modalités du vote, parce qu'on sait que ces modalités décident en partie du résultat du vote. Simplement, j'ajouterai que la crise, effectivement, va mettre encore plus l'accent sur le rôle de l'État, dans la mesure où non seulement elle a souligné les déficiences du système de santé américain, et de ce point de vue, j'imagine, redonner une certaine popularité à l'Obamacare, mais plus encore, elle a souligné l'acuité des inégalités. On sait que ce sont les Africains américains, les Latinos, qui sont beaucoup plus directement touchés, dans la mesure où le nombre de morts par rapport à leur pourcentage dans la population est tout à fait énorme. Ce qui fait donc qu'il y a là effectivement une sorte d'avenue pour les démocrates s'ils veulent gagner l'élection et si Biden veut se transformer de candidat de la restauration, c'était un petit peu son image face à un Sanders, candidat de la révolution, en homme de la nouvelle donne.
Philippe Golub, la campagne, une autoroute pour les démocrates?
Ça pourrait l'être sous condition justement de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire d'une prise de conscience de la part de ceux qui maintenant dirigent la campagne électorale, de ne pas restaurer le passé, mais de changer fondamentalement les donnes économiques et sociales intérieures dans le pays, et en particulier effectivement commencé à lisser des inégalités inouïes qui caractérisent la société américaine. Nous sommes dans une configuration où la part de la richesse nationale captée pour captée par 1% de la population est de l'ordre de 35 à 40%, en variant selon les moments, et dans laquelle une très grande majorité de travailleurs pauvres vivent dans des situations d'extrême difficulté, sinon de dénuement. Et aujourd'hui, aux États-Unis, du fait du Covid-19 et de la crise sanitaire et du chômage de masse soudain et très abrupt et très violent qui vient de s'abattre sur eux, de très nombreux Américains se retrouvent sans les moyens même de se nourrir. Donc on est dans une crise existentielle et si les démocrates, ceux qui sont actuellement chargés de la campagne ne se saisissent pas de ces questions à bras le corps, on ne voit pas comment ils pourront diriger les États-Unis dans une période de longue crise économique sociale qui s'ouvre.
Et ce qu'a révélé la crise du coronavirus, c'est que finalement la première puissance économique et militaire de la planète n'était pas mieux préparée que le reste du monde. Elle semble même particulièrement vulnérable en raison de son organisation sociale profondément inégalitaire, vous l'avez évoqué, avec un système de santé privatisé le plus cher du monde. Les États-Unis qui comptent moins d'hôpitaux et de médecins par habitant que la plupart des pays développés. Un tiers des Américains renoncent à se soigner faute d'argent. Pierre Mélandry, un commentaire.
Oui, bien sûr. La crise a mis en lumière ce qui était un peu l'illusion de la prospérité dont Trump se vantait. De ce point de vue-là, Trump est privé de ce qui était son atout majeur sur lequel il jouait. C'était la richesse du pays, le niveau de la bourse, la faiblesse du taux de chômage. Comme Philippe le suggérait, le taux de chômage qui était à 3,5% encore début mars est probablement autour de 13-14% aujourd'hui et certains redoutent qu'il soit à 30% au début de l'été, en sorte que la crise du coronavirus pourrait avoir porté à l'économie américaine en quelques mois le même coup que la crise de 29 a porté en 4 ans. Bref, on a bien de ce point de vue un contexte où les démocrates pourraient faire campagne sur un regain du rôle de l'État. Et la seule faiblesse qu'ils vont avoir, c'est d'abord, ils sont confrontés à un Trump qui est très habile à transfigurer la réalité, à rejeter les responsabilités sur l'étranger, sur la Chine, sur l'OMS, mais aussi sur les gouverneurs, et aussi qui dispose d'un formidable atout dans les réseaux sociaux, où il est beaucoup plus implanté actuellement que Biden, et dispose avec Brad Parscale, un grand spécialiste, pour mener une campagne d'insinuation, voire d'infox, dont il reste à voir quel sera l'impact.
Alors, pour ajouter à ce qui vient d'être dit, on peut, en tout cas j'ai dans la préparation de cette émission, trouver ce pourcentage tout à fait intéressant, 40% des Américains qui ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de plus de $400. On peut donc s'attendre à des défauts sur les crédits et la consommation, ce qui peut déboucher sur une crise bancaire. Alors, on a vu le gouvernement fédéral décider de chèques aux plus nécessiteux, des chèques jusqu'à $1,200 qui seront donc envoyés à des dizaines de millions de contribuables. Chèque sur lequel sera posé le nom de Donald Trump qui est donc, Philippe Golub, et en guise de conclusion, en campagne tous azimuts.
Oui, ce seront donc des chèques un peu obscènes. Il est vrai que la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, joue un rôle décisif aujourd'hui, comme d'ailleurs la Banque centrale européenne en Europe, pour stabiliser la situation d'extrême précarité qui s'est développée rapidement aux États-Unis. Le problème du genre de programme initié par compromis, à travers un compromis entre démocrates et républicains dans la Chambre des représentants, et que un chèque ne suffit pas, il faut des programmes en longueur et en profondeur, c'est-à-dire de trouver les moyens d'une sécurisation longue, stable et régulière de la population américaine, ce qui n'est pas le cas. Trump va bien sûr mobiliser sa base reste stable selon tous les sondages. Le vrai travail devra être celui des démocrates pour qu'ils changent la donne fondamentalement aux États-Unis. Et là, je suis quand même sceptique pour l'instant, puisque l'équipe de Biden ne semble pas avoir pris la mesure de l'enjeu historique du moment.
Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Philippe Golub. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris et auteur de Une autre histoire de la puissance américaine aux éditions du Seuil. Et Pierre Mélandry, historien et auteur de Le siècle américain, une histoire parue chez Perrin. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Juliette Brault et Nathalie Laporte. À demain. Religion du monde.